de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Au début du XXe siècle, au cœur de l'Afrique, au Mali, la lumière de Dieu a brillé sur un homme, Tierno Bokar, que l'on appelait le sage de Bandiagara. Cheikh de la confrérie soufie Tidjaniya, il fut une pure et haute figure non seulement de l'islam en Afrique noire, mais de la spiritualité universelle, écrit Amadou Ampaté Baké, que nous allons entendre dans cette émission datant de 1959. La confrérie des soufis Tidjaniya, dans laquelle les femmes pouvaient être de grandes interprètes très vénérées du Coran, est la communauté soufie la plus importante d'Afrique. Cette émission, consacrée à Tierno Bokar, qui date de 1959, permet de faire connaissance avec l'un de ses grands maîtres.
Mesdames, Messieurs, la Radiodiffusion Télévision Française a le plaisir de vous présenter ce soir la deuxième émission d'une production de la SORAFOM, Radiodiffusion d'Outre-mer, consacrée à la vie et à l'enseignement du grand mystique africain Tierno Bokar. Tierno Bokar, originaire de Bandiagara, au pays des Dogons, ville de la République soudanaise. C'est par son disciple préféré, Amadou Ampaté Ba, que revit pour nous la noble figure et la haute pensée spirituelle, humaine, de celui que l'on a pu appeler le Saint François d'Assise africain.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Un homme remarquable.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, raconté à Yves Le Gall par Amadou Ampaté Ba.
رجلون مثين اسمه تيرنو أبو بكر شيخ البنجارة في قصة حكاها أحمد همبتي با لإيف لغال
Étais-je là pour éveiller moi ou l'enfant qu'il connut? Les paroles d'Amadou Ampaté Ba. Elles vont caresser Tierno Bokar, son maître, provisoirement le vôtre.
Cheikhi ana wa cheikhukum antum al-an.
Le mien.
Cheikhi ana.
Ô rustre de l'Occident.
Ya abid al-gharb.
Pilier sans sagesse du savoir. Je salue, vieux, grand-père Bokar. Je salue, grand-père Ampaté Ba. Je veux rencontrer quelqu'un. Je veux entendre le fils d'autrui. Tierno Bokar est mort.
Mata Tierno Abu Bokar.
Tierno Bokar est vivant.
Bella. Innahu hay.
Georges Godbey a mis en page mot après mot et quatre chapitres. Tierno Bokar, vu par le fils d'autrui. L'histoire du vieux Peul Tierno. L'activité du fils de Bokar Salif. L'enseignement du maître d'Ampaté Ba. Aujourd'hui, chapitre second. L'histoire de Tierno Bokar, fils d'Aïssata et de Salif. La fin d'un empire tout couleur. Tierno Bokar voit son père pour la dernière fois. Le prix de la vie. À Bandiagara, un métier, brodeur. Les élèves. Le pourquoi d'une rencontre. Le pôle d'une congrégation. La persécution. Tierno Bokar meurt à Bandiagara.
Serait peut-être utile, Amadou Ampateba, de connaître un peu plus la vie de Tierno Bokar. Et elle est d'autant plus passionnante, cette vie de Tierno Bokar, qu'elle s'est commencée avant l'occupation française. Elle s'est commencée dans un empire peul, n'est-ce
oui,
pas?
Oui.
Tierno Bokar est né en quelle année?
En 1875.
En 1875.
Parce que à la prise de Ségou, il avait 15 ans. Oui. Ségou est pris en 1890. Alors lui, il est né en 1875. Son père est le cousin de l'âme de Djoulbé, c'est-à-dire le roi de Ségou. En tant que tal, il devait tout de même avoir plutôt une place de chef. Au lieu de mener une vie misérable comme il l'a menée, il aurait pu mener une vie de prince.
Mais qu'est-ce qui, à votre avis, a développé cette vocation religieuse, c'est Tierno Bokar?
Ah ben ça, son père, sa mère, son grand-père, parce que son grand-père était un saint unanimement reconnu, même actuellement, sa tombe à Ségou est l'objet d'une grande vénération. Et alors, il a toujours eu des exemples de vie religieuse dans sa famille.
Vous nous avez appris que la vie d'un enfant noir était, après sept premières années, en tout cas d'un enfant peul, après les sept premières années passé auprès de sa mère, entièrement placé sous l'obédience d'un maître, mmh, n'est-ce pas, d'un maître à penser, et d'un maître à faire des choses, d'un maître à découvrir aussi la nature, le monde et Dieu. Et je suppose que très certainement, Tierno Bokar a reçu le même enseignement. Quel a été donc son premier maître?
Son premier maître, on peut dire que son premier maître a été sa mère même, oui, parce que je vous dis que dans sa famille, il y avait une école coranique. Son père même était maître d'école coranique. Son grand-père est maître d'école coranique. Sa grande-tante est maîtresse d'école coranique.
Il y avait des femmes qui enseignaient le Coran?
Il y en avait autant de la Splendeur, de Toukoulère et du Massina. Il y avait des femmes qui finissaient le Coran et qui d'ailleurs en imposaient souvent aux hommes. Et moi-même j'en ai vu, j'ai même reçu des leçons d'une femme qui s'appelle Atia, et qui était une femme, mais c'était une coraniste émérite. Tous les marabouts de Bandiagara avaient peur d'elle. Et quand il y avait une discussion religieuse, par exemple, on lui envoyait une lettre, parce qu'elle ne vient pas en public, pour lui demander quel était son point de vue. Alors, de derrière son hurangao, comme on dit, c'est-à-dire le hurangao, c'est dans la maison, vous voyez, on fait un rideau de nattes. Alors, la noblesse doit toujours se trouver derrière un hurangao. Et alors, chaque fois qu'on envoyait quelque chose à Atia, on disait, attendons la réponse de celle du hurangao.
Donc, au bout de 15 ans, au moment de l'invasion de Ségou, Tierno Bokar part vers Bandiagara.
Oui, oui, c'est-à-dire qu'il est parti après la prise de Ségou, il est parti à Bandiagara en suivant son autre grand-oncle Aguibou.
Et c'est là qu'il se trouve séparé de son père?
Non, il s'est séparé de son père à Ségou.
À Ségou.
Au moment de la prise de Ségou, son père n'avait qu'un cheval. Alors il a préféré abandonner son fils mais prendre son petit frère. Et quand Tierno qui lui a pris la bride pour le sortir de ses goûts, alors il a dit à Tierno, je te confie à Dieu.
Et on ne l'a jamais revu?
Ah non, non, on ne l'a jamais revu. Parce qu'il a suivi l'âme de Djoulbé. Et après la prise de Bandiagara, l'âme de Djoulbé a continué sur Douanza. Et le père de Tierno Bokar, c'est-à-dire Salif, a suivi l'âme de Djoulbé et n'a pas voulu rester à Bandiagara.
Pour en venir à Tierno Bokar, comment s'est passée son installation à Bandiagara?
Eh bien, son installation à Bandiagara, dès qu'il est arrivé avec son grand-oncle Aguibou, comme sa mère est fille de Seydou de la cour de Sokoto, sa mère a préféré aller se rapprocher des Haoussa, et parce que l'aide mutuelle des Haoussa est quelque chose de très proverbial. Quand ils arrivent dans un pays, ils font tout de suite un quartier Haoussa où ils s'entraident. Et alors la mère de Tierno, n'ayant pas d'autres ressources que son propre travail parce qu'elle n'a pas voulu se remarier, arrivée à Banyagra, tout le monde a voulu se marier avec elle, mais elle s'est refusée à ce mariage en disant que son mari l'a quittée par force majeure, alors rien ne lui dit qu'elle est divorcée. Il faudrait qu'on lui donne un papier de son mari disant qu'il l'a répudiée. Autrement, elle est tenue par ce mariage et s'il ne voit pas son mari, il lui rapportera son lien dans l'autre monde.
Et c'était très tôt que Tierno Bakar s'est mis à enseigner.
Oui, c'est très tôt parce que c'est vers l'âge de 33 ans. Avant même 33 ans, mais vraiment...
Toujours à Bandiagara.
Il a toujours enseigné, voyez-vous. Le fait de nous avoir vite appris le Coran, ça lui a valu de nouvelles recrues. Et puis surtout sa propre conduite. On ne lui connaît pas de relation de femme, on ne lui connaît rien, jamais. Et personne ne peut dire, il m'a dit une chose qui n'est pas vraie. De tout temps, il a été comme ça. On l'appelle l'enfant qui a vieilli avant l'âge. C'était un homme vraiment inspiré. Parce que comme un jour, il y a un grand marabout qui était venu à Bandiagara, et spécialement pour questionner Tierno Bakar. Alors après, on lui a demandé, alors quel est le savoir de Tierno Bakar par rapport à vous? Ah, il dit, oui, si on met dans le plateau de la balance ce que j'ai appris vaut 5000 francs, pièces d'or. Et ce que Tierno a appris pèserait 50 francs. Mais si on pèse le savoir de Tierno Bakar et mon savoir pèsera 50 francs et son savoir pèsera 5000 francs. Alors moi j'ai la science, Tierno a la connaissance.
Mais après plusieurs années d'enseignement, comment se fait-il que, sur le tard, Tierno Bakar, ayant déjà reçu un enseignement traditionnel coranique, se soit préoccupé de rencontrer un maître?
Dans le soufisme, l'enseignement d'un maître et le maître de la voie, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, par exemple, les jésuites. Vous avez un général des jésuites.
Oui.
Alors, il a un mot d'ordre, ou bien comme les lamas de l'Inde. Ils naissent avec des signes où ils ont des choses. Alors le maître de l'ordre Tijani est reconnu d'après ces signes-là. Et alors être maître de l'ordre Tijani et être maître enseignant, ça fait deux choses différentes.
Bien sûr. Mais il s'est trouvé donc que Tierno Bakar, je crois vers la cinquantaine, a éprouvé le besoin de partir à la recherche d'un maître.
Non, il n'est pas parti. Le mot n'est pas juste. Non. Le mot n'est pas juste. Il est parti pour reconnaître l'obédience d'un maître. Pour lui, c'était l'obédience du shérif Amallah qui était valable.
Et comment s'est passée cette rencontre? Et naturellement, elle a provoqué de grands remous.
Ah oui. D'ailleurs, dont lui, il n'en est pas sorti.
Parce que
depuis son retour de Nioro jusqu'à sa mort, il a été persécuté.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu l'entrevue de Tierno Bakar et de Shérif Amallah?
Eh oui, brièvement, parce que ce qui a été raconté dans le sas de Bandiagara n'est pas dit à moi, c'est dit à un témoin oculaire, Moula Ismaïla, qui était présent et qui avait servi Tierno Bakar. Et depuis un certain temps, à Bandiagara, on entendait toujours parler de la question de 11 grains. Et alors, évidemment, Tierno Bakar, qui ne cherchant que la vérité, alors il dit, il n'y a pas de question de 11 grains et de 12 grains qu'il faudrait voir, c'est de voir si celui qui est venu est le maître. On appelle si lui, il est le pôle de la congrégation. Et alors ça, je ne peux pas, de Bandiagara, je ne peux pas juger un homme qui est à Nioro parce que moi, je n'ai pas des yeux de nuit pour regarder. C'est-à-dire, j'ai pas une double vue. Et alors, il a profité de la mort de son frère à Bamako. Il est venu pour la liquidation de la succession de ce frère parce qu'il s'est trouvé être l'aîné de la famille. Alors, quand il a liquidé la succession de son frère, il m'a dit, voilà, moi, du moment que je suis maintenant à 400 km de Nioro, et on m'a toujours assailli des questions en ce qui concerne le shérif Amallah et la validité de son obédience, je préfère aller l'interroger lui-même parce que je ne peux pas condamner quelqu'un sans savoir, sans lui poser de preuves. Et or, Alpha Hassimi, qui avait hérité, peut-on dire, de la baraka Tijani, et qui est parti s'installer en Arabie, avant de mourir, avait nommé Tierno Bakar. Mais il lui avait donné certains signes, en lui disant, si tu vois ces signes en toi-même, tu es le pôle. Et si tu le vois en une autre personne, cette personne est le pôle, il faudrait te soumettre.
Je m'excuse de vous interrompre, mais est-ce qu'on peut avoir une idée de ces signes?
Ah non,
non, je ne peux pas. Il a vu ces signes.
Et alors, il a vu ces signes en Shérif Hamala. Et il a eu le courage de reconnaître. Et c'est ce qui n'a pas plu à sa famille, parce que toute la famille, eh bien, il était l'un de ceux sur lesquels reposait l'espoir de la famille. Et comme la famille a toujours lutté contre le Shérif Hamala, et que lui, tout de suite, il arrive, il donne raison à Shérif Hamala, et alors la famille a pris une position contre lui.
Comment s'est passé le retour de Tierno Bakar à Bandiagara?
Eh bien, le retour de Tierno Bakar à Bandiagara, d'abord, quand Tierno, une fois qu'on a su que Tierno avait reconnu Shérif Hamala, les Toukoulères ont pris toutes les dispositions possibles, eh bien, pour le desservir, d'abord auprès de l'administration, pour porter atteinte à sa réputation. Ils ont commencé par dire que le Shérif Hamala lui a donné beaucoup d'argent. Seulement, alors, pour leur malheur, ils ont dit que c'est 2500 francs. Alors, c'était tellement ridicule que, et tous les rapports administratifs portent ces 2500 francs. Que c'est pour 2500 francs que Tierno Bakar s'est converti au hamalisme. Alors, vraiment, là, c'était un témoignage frappant. Je ne sais pas, une sorte d'aberration, quand même. Et alors, Tierno a quitté Nioro. Il est arrivé à Kounyakari où les parents n'ont pas voulu le recevoir. Alors, Tierno est resté quelque temps à Kaye. Puis, il a rejoint Bamako. Alors, tout de suite, il envoie dire à la maison qu'il est venu. Alors, je me porte chez lui. Parce qu'il a logé chez son frère. Je lui ai demandé s'il avait vu le Shérif Hamala. Il m'a répondu, j'ai vu l'homme, je l'ai revu, et je l'ai trouvé. Et en lui, j'ai trouvé ce que je cherchais. Je me suis démis de tout ce que je possédais et j'ai pris ce qu'il m'a donné. Je suis resté une quinzaine de jours avec lui. Et c'est après qu'il m'a réordonné mon kadem. Parce que pendant 15 jours, je suis resté comme tolba, comme simple élève.
Le mokadem, c'est?
Le mokadem, c'est comme un prêtre supérieur, par exemple, comme un évêque. Je lui ai dit, alors, depuis que vous avez quitté Nioro jusqu'ici, avez-vous renouvelé le virdou de quelqu'un? C'est-à-dire, avez-vous confirmé quelqu'un? Il dit, personne. J'ai dit, alors, moi, ayant été parmi les premiers élèves de l'école coranique, je voudrais être encore le premier, puisque j'ai la chance de vivre, je voudrais être le premier élève dans la voie que tu viens de choisir. Alors, il me dit, il faut réfléchir, parce que la main de Shérif Hamala est une braise ardente. Et la main de tous les autres hommes, c'est de la poudre. Il suffit de la serrer pour qu'il y ait une détonation. Il dit, toi, si tu veux me suivre dans cette voie, vraiment, je ne te conseille pas. Je voudrais que tu réfléchisses, que tu fais. J'ai dit, mais moi, personnellement, je te dois tant de choses que je voudrais même dans le paradis que ce soit toi qui passes d'abord avant moi et que je vienne après toi. À plus forte raison, dans une congrégation que je ne vois que par toi. Alors là, il a versé des larmes. Il a pleuré. Et c'était la première fois que de ma vie de le voir pleurer. Alors, j'ai dit, je voudrais être ton tcholel. Alors le tcholel, c'est le petit poisson ou bien le petit gibier qu'on tue après une journée de chasse bredouille. C'est ce qu'on appelle le tcholel. Et or, pour lui, je considérais comme si sa chasse était bredouille et je me considérais comme son tcholel. Alors maintenant, lui ayant donné cette assurance que j'étais de son côté quoi qu'il arrive, alors je lui ai dit, Tierno, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous venez de faire? Il dit quoi? J'ai dit, parce que actuellement, non seulement tu vas avoir toute ta famille contre toi, mais l'administration aussi sera contre toi. Alors il me dit, mais je te croyais mûr pour penser à ton âme plutôt qu'à ce que les gens diront ou feront. Tu sais que le monde, c'est comme une chambre à air. Alors, si tu la remplis trop, tu ne pourras pas la porter. Mais si tu veux porter, il faudrait vider son air. Alors, vide-toi de gloire de mon père, ma mère, ma race, mon pays, ma congrégation. Eh bien, pour être l'homme de Dieu, Dieu a aimé et créé, il faut aimer toutes les créatures. Et alors je lui dis, eh bien bon, maintenant Tierno, tu as jeté une braise dans la poudrière. Alors advienne que pourra, Dieu sera notre aide. Et quelques jours après, je suis venu lui dire, écoute, je vais partir à Dakar. Il m'a dit, attends, je vais réfléchir. Après deux jours, il m'a dit, bon, tu peux partir à Dakar. Et il m'a accompagné jusqu'à la gare de Bamako. C'est là où je me suis séparé avec lui pour toujours. Et c'est là, c'est en 1937. Et trois ans après, il est mort à Bandiagara, en février.
Un homme remarquable, Tierno Bokar, le sage de Bandiagara, raconté à Yves Le Gall par Amadou Hampaté Ba.
La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter ce soir la deuxième émission de la série consacrée à la vie et à l'enseignement du grand sage africain Tierno Bokar, originaire de Bandiagara, au pays des Dogons, ville de la République soudanaise. Cette émission, qui a été réalisée par Georges Godbert, est une production de la Sorafom, radiodiffusion d'outre-mer.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 19 octobre 1959. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à volonté en vous rendant à la page des nuits sur franceculture.fr.
Wave you left.